Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de la Tribune de Presse. Nous sommes vendredi 6 mai 2016 et je m'en vais saluer mes invités qui sont dans ce studio. Je commence par vous, Joachim Diana, bonsoir.
Bonsoir, Berry.
Vous êtes éditeur responsable de La Colombe, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Peter Tcheny, bonsoir.
Bonsoir, Berry.
Vous êtes directeur général du Vrai Journal, partenaire à CCTV et certains autres médias kinois, c'est ça?
Exactement.
Et Serge Banzaba, bonsoir.
Bonsoir, Berry.
Vous êtes journaliste à la RTNC Congo Central. Je dis aussi bonsoir à Dieudonné Nyangasa qui est aux commandes techniques. Et pendant trois quarts d'heure, messieurs, nous allons débattre politique et économie. D'abord, Moïse Katumbi qui s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle via son compte Twitter. Et entre-temps, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Alexis Thambo Mbamba, a déclaré avoir ordonné une enquête sur le recrutement des mercenaires étrangers liés à l'ancien gouverneur de l'ex-province de Katanga. Le tout s'est passé le mercredi 4 mai 2016. Et puis la Silou a décidé d'arrêter la production de ciment gris au Congo central, annonce faite mardi 3 mai par le directeur général de cette entreprise. Raison avancée, une concurrence déloyale dont elle fait face depuis décembre 2015. Et nous allons ouvrir la tribune de presse avec la revue de presse que nous présente Kéline Couté. Bonsoir Kéline Couté, quels sont les sujets qui ont été débattus par la presse ce soir?
Bonsoir. Mise en accusation de Moïse Katumbi sur injonction du ministre de la Justice. Le PGR, instruit de poursuivre Moïse Katumbi, annonce la tempête de tropique alors qu'il avait sollicité le premier une enquête sur les incidents du 24 avril dernier à Lubumbashi où des policiers auraient tiré à balles réelles sur ses partisans. Le richissime Katangé est pris de vitesse par le gouvernement qui affirme que 400 étrangers, anciens marines américains et commandos sud-africains, sont au service de Katumbi, explique le jour. Pour l'avenir, l'étau se resserre autour de Moïse Katumbi et selon le journal, le ministre a affirmé qu'à travers Jones Group, une société basée aux États-Unis, Moïse Katumbi recrute des mercenaires qui travaillent sous couverture dans une société de gardiennage dénommée Bomba One Security, dirigée par son propre garde du corps qui est parmi les personnes arrêtées. Et selon ce journal, l'État veut savoir les vraies raisons pour lesquelles M. Katumbi Tchapwe a recouru à toutes ces personnes. Alexis Tambwe veut arrêter Katumbi, titre le phare. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux dit détenir la preuve documentée de ses accusations. Le journal rappelle que des rumeurs sur des caches d'armes et l'existence des milices armées par Katumbi n'ont cessé de circuler depuis sa rupture avec son ancienne famille politique. Sur ces sujets, le potentiel se fait l'écho des positions des alliés de Katumbi qui dénoncent une machination politique. Dans sa manchette, le potentiel annonce également la candidature de Moïse Katumbi. C'est officiel, Moïse Katumbi se déclare candidat à la présidentielle 2016 malgré toutes les pressions exercées sur lui pour le détourner de son combat, fait observer ce quotidien. Changeons des chapitres pour parler économie. On peut lire sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, que la cimenterie de Lukala, Silou en sigle, a décidé d'arrêter la production du ciment gris au Congo central, a annoncé mardi 3 mai dernier le directeur général de cette entreprise. Selon lui, cette décision est prise suite à une concurrence déloyale dont elle fait face depuis décembre 2015. Il indique que son entreprise se voit complètement dépassée par cette concurrence qui a obligé l'usine de tourner en dessous de 50% de sa capacité.
Merci Kéline Couté. Et l'actualité de la semaine a été aussi marquée par les obsèques de Papa Wemba. Son corps a été inhumé mercredi au cimetière Nécropole entre Terre et Ciel dans la périphérie est de Kinshasa au terme de trois jours d'obsèques officielles dans la capitale congolaise. Son corps devra être exhumé dans les prochains jours pour être enterré sur un site où serait érigé un mausolée en son honneur. C'est le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, qui l'a annoncé lors de son oraison funèbre prononcée à la cathédrale Notre-Dame du Congo où une messe a été dite. Alors Joachim, quelle lecture faites-vous de cette annonce du gouverneur?
C'est une très bonne chose que l'on honore les artistes, l'étant à moi-même d'une manière ou d'une autre, mais c'est pour dire que j'aurais bien voulu qu'au lieu qu'il y ait un mausolée, mais qu'il y ait une institution culturelle qui aurait pour mission de soutenir la création. Nous ne devons pas devenir une société de musée, on doit devenir une société d'action, c'est-à-dire on dit au nom de Wemba, on dit par exemple fonds Wemba, et ces fonds-là permettent que les jeunes artistes puissent créer. Parce que si Wemba lui-même, vous savez, il est sorti du néant par des efforts personnels, il est devenu ce qu'il est devenu, mais il ne faudrait pas qu'on demande à tous les jeunes aujourd'hui, parce que l'époque de Wemba, qui doit être presque de notre génération, les conditions étaient encore beaucoup plus faciles. Mais aujourd'hui, c'est dur que de se faire de soi-même, il faudra l'aide de l'État, l'aide de la société. Mieux vaut une fondation qu'un mausolée.
D'accord. Peter Tiani, avec le décès de Papa Wemba, l'UNESCO dit avoir entamé le processus d'insertion de la rumba comme patrimoine de l'humanité. Comment vous analysez cela ?
J'apprécie toutes les démarches aussi et là du gouvernement de l'UNESCO, comme l'a dit tantôt Joachim Diana. Mais je pense ici que le plus grand travail à faire, ce n'est pas d'en arriver là, c'est d'abord faire en sorte que les artistes musiciens vivent de leur métier. Or, si aujourd'hui, à travers la mort de Wemba, avec tout ce qu'il a comme œuvre, j'estime que sa famille doit être riche. Malheureusement, nous sommes dans un pays où le piratage est ce qu'il est et les artistes ne se retrouvent pas très bien. Alors, je crois qu'au lieu de faire de musées, de mausolées, des instituts, qu'on commence d'abord par redorer le blason ternier de ce métier, qu'un artiste sud-africain qui fait son œuvre, qui vend en Afrique du Sud 1 million d'exemplaires, il devient riche. Malheureusement, nos artistes ici, ils peuvent rouler carrosse, mais la vie est difficile. Il faut qu'on puisse donner de la valeur à ce métier, que le musicien vive de son métier, et je crois qu'on aura de manière assez importante honoré la mémoire de Papa Wemba.
Serge Banzaba, comment les funérailles de Papa Wemba ont-elles été vécues chez vous à Matadi?
Moi, j'étais précisément à Boma, c'est là que j'ai vécu tous ces obsèques ici, et tout ce que j'ai remarqué, Papa Wemba a été célébré. Et depuis mon hôtel, j'ai constaté qu'il y a eu des défilés de morts improvisés en ville basse, pour ceux qui connaissent très bien Boma. Et on a même placé un écran, quasiment géant, hein, quelque part, là où les gens suivaient et les obsèques de Papa Wemba. Nous avons donc là senti, par-ci, par-là, des banderoles en honneur de Papa Wemba. Mais également, c'était avant-hier, une messe a été organisée à Matadi, à la paroisse des Sacré-Cœur de Kinkanda, où se sont retrouvés tous les Anamongo habitant la ville de Matadi. Ce qui veut dire que Papa Wemba a été célébré à Matadi avec des émissions spécialisées.
Merci. L'autre actualité de la semaine concerne les journalistes. Notre métier donc, Le Monde a célébré le mardi 3 mai dernier la journée mondiale de la presse. Et à cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies a déclaré que les médias doivent être libres et indépendants. Dans son message, Ban Ki-moon regrette, je cite, « bien trop souvent, des journalistes sont menacés, harcelés et se heurtent à des obstacles ou sont même tués dans leur quête d'information. » Joachim, quelle lecture vous faites de ce message de Ban Ki-moon?
C'est un message, je dirais même, c'est un rituel qu'on entend chaque année, à chaque journée. Mais en attendant, en ce qui concerne la situation de notre pays, vous ne pouvez pas avoir une presse libre, pauvre et libre. La pauvreté vous dispose à l'esclavagisme, vous expose à des contrats non acceptables. Comme disait quelqu'un, me rappelait quelqu'un que les vertus se perdent dans les intérêts. Et c'est pourquoi beaucoup de nos médias vivent de ceux qui le nourrissent. Alors, dans ce moment-là, on confond maintenant la liberté de la presse. Il y en a ceux qui pensent, c'est de l'opposition médiatique, parce que le fait qu'ils sont de l'opposition médiatique, ils sont libres. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont liés à un clan politique à qui dont ils rendent les avis servilement, même de la façon la plus bête, sans aucune analyse, comme on supporterait des rings Imanavita, et comme ça, ils se disent libres. Évidemment, lorsque vous allez du côté de ceux qui sont de la majorité, c'est ceux-là, il est rare qu'eux-mêmes se disent libres, parce que les autres les disent. Le fait d'être un journaliste à la RTNC, par exemple, on dit un journaliste à la RTNC n'est pas libre.
Peter, par rapport au tableau que peint le secrétaire général des Nations Unies, est-ce que c'est le reflet de ce qui se passe en RDC?
Tout à fait d'accord, et j'ai l'impression d'être en train de rêver en entendant Joachim Diana, qui a l'impression que c'est un bourreau qui veut se faire passer pour la victime. Joachim Diana a subi de sa propre chair les affres de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Je suis allé le rendre visite à la prison. Il a fait un article sur un hôpital de la place.
On l'avait accusé de diffamation.
Peut-être qu'il a oublié lui-même qu'on était avec lui en prison. Je suis allé le rendre visite. Peut-il nous dire dans quel pays où on peut donner une information, dire des choses qui se font jusqu'aujourd'hui dans cet hôpital? Vrai d'ailleurs, parce que nous avions vérifié, son article était véridique, parce que Joachim Diana selon tendance à dire des choses vraies, il s'est retrouvé en prison. Peut-il lui dire que dans un environnement où la liberté de la presse est garantie, que ça peut arriver qu'on dise quelque chose qui est vrai et qu'on se retrouve en prison? Non, il faudrait à un moment éviter, sur base d'une position politique, à commencer à dire des choses, à voir même rouge ce qui est noir. Donc, je suis très à l'aise d'être avec Joachim Diana dans ce studio, parce qu'il est lui-même, il a été victime de cette situation. En République démocratique du Congo, pas plus tard qu'hier, j'étais en train de suivre la RTNC dont il a fait mention. J'ai vu ce qui s'est passé sur l'affaire Katumbi dont on va parler ici. Je me suis posé la question si c'est ça l'image de la presse de notre pays à l'étranger. Donc, c'est quand même assez regrettable pour Joachim Diana, qui est un éditeur, qui a été victime, d'oublier même ce dont il a été victime lui-même sur base de considérations politiciennes.
Alors Serge, vous à Matadi, est-ce que les journalistes sont libres dans l'exercice de leur métier?
La liberté dont il est question ici, il s'agit d'une liberté encadrée par des textes. Mais là, je me dis que la liberté au Congo, je vous donnerai une réponse un peu mitigée, oui et non. Oui, il y a liberté parce que nous voyons les nombres des chaînes au Congo central sont vraiment impressionnants. Mais il faut également dire qu'il se pose un problème par rapport à la célébration de la journée de la presse au Congo.
D'accord.
Au lieu qu'on puisse réfléchir
oui.
à propos des questions qui nous concernent, aujourd'hui, là, par exemple, chez nous, en RDC, il se pose un problème d'abord de rétention de l'information. Nous avons toujours sollicité que cela puisse être érigé à une infraction, le fait de refuser l'information à un journaliste. Mais également la problématique des délits de presse. J'ai toujours été contre par rapport à ceux-là qui voulaient qu'on aille vite en besoin en disant qu'il faut dépénaliser parce qu'entre nous, il se pose un problème de formation, un problème de maturité du micro, beaucoup de problèmes. Donc, il y a encore à faire au Congo à propos de la liberté de la presse.
Merci
beaucoup.
Pourquoi
nous comparer avec des Français, avec des Camerounais? Nous sommes au Congo, on a des textes. La loi légifère notre liberté autrement.
D'accord, merci beaucoup. Diana, vous voulez réagir très rapidement.
Très rapidement. Je voulais dire, c'est rapidement pour dire que moi, je me considère toujours comme un journaliste libre.
D'accord.
Personne ne m'empêche de faire ce que je fais. Je suis responsable.
Combien on vous a arrêté?
Ça ne veut pas dire que quand on vous arrête, vous n'êtes pas libre. Je continue à faire ce que je fais et je suis responsable à assumer les conséquences. Je sais qu'il y a un juge corrompu, il y a un Chinois qui a voulu me corrompre avec 14 000 dollars. J'ai refusé. C'est la preuve que je suis libre.
D'accord.
Donc, ce n'est pas parce que je suis arrêté qu'il n'y a pas de liberté de presse.
Très rapidement. En un mot.
Mais justement.
Non, la liberté, c'est par rapport à mon travail.
La façon
de faire mon travail.
S'il vous plaît.
Mais après, chaque travail que vous faites a des conséquences.
D'accord.
Je les assume.
Okay.
La capacité. Ça ne veut pas dire que le journaliste ne peut pas traduire en justice.
Commencez par vous calmer, Joachim Diana. La capacité de l'écoute nous permet de mieux saisir l'interlocuteur.
Okay.
Le fait déjà que vous soyez arrêté est une entrave et ce n'est pas normal.
D'accord.
Parce que la Constitution, dans son article 28,
27, pas.
28, vous donne le droit de donner l'information.
Oui, j'ai donné. Une et je continue à
D'accord.
Donner.
Voilà, ce sont sur ces mots que nous allons rentrer dans notre premier thème de la soirée qui concerne le dossier Moïse Katumbi-Tchapwe. Alors, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a donné injonction mercredi au procureur général de la République d'ouvrir un dossier judiciaire à charge de l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga. Selon le ministre Alexis Thambwe Mwamba, Moïse Katumbi serait à la base de plusieurs faits graves contre la sécurité du pays, notamment le recrutement des présumés mercenaires, l'organisation d'un réseau mafieux et d'une entreprise criminelle. D'après le ministre, plus de 400 étrangers, anciens Marines américains et commandos sud-africains seraient en situation irrégulière au Katanga depuis novembre 2015, au lendemain de sa démission de ce poste de gouverneur de province. Les propos du ministre Alexis Thambwe sont recueillis par Jeff Ngoy.
Après la démission de M. Moïse Katumbi-Tchapwe de ses fonctions de gouverneur de l'ex-province du Katanga, nos services ont observé dans son entourage immédiat la présence des gardes du corps d'origine étrangère. Manifestement, par rapport aux échéances à venir, on peut se demander pourquoi des gens avec une telle spécialisation sur le plan militaire sont entrés de manière irrégulière sur notre territoire. Il y a probablement une démarche qui pourrait faire croire que certains imaginent qu'ils pourraient passer par une épreuve de force dans l'hypothèse en fait où on ne peut pas arriver au pouvoir de manière normale par les élections. Alors, j'instruis le procureur général de la République de lancer un dossier judiciaire, d'entreprendre disons toutes les poursuites et une équipe d'enquêteurs se trouve présentement à Lubumbashi à commencer commencer les investigations qui vont toucher toutes les personnes qui de près seront concernées par ce dossier.
Et en réaction, le gouverneur honoraire du Katanga se dit calme et confiant. Moïse Katumbi a déclaré que toutes les accusations sont fausses. Toutefois, par rapport au grief sur le recrutement des mercenaires, il sollicite une enquête internationale. Enfin, l'ancien gouverneur du Katanga confirme qu'il est bel et bien candidat à l'élection présidentielle de 2016. N'est-ce pas, Nui Kabina?
Sur le dossier judiciaire ouvert contre lui par le procureur général de la République, Moïse Katumbi rassure de sa tranquillité en promettant de démontrer ce qu'il appelle un montage du gouvernement congolais. Il indique que sa lutte est pacifique.
Ce sont d'abord des accusations mensongères et farfelues, parce que vous savez, si on avait vraiment les services de renseignement et on avait un état de droit, on ne pouvait pas laisser entrer plus ou moins 600 mercenaires dans notre pays, c'est-à-dire les services de renseignement n'existent pas. Dans un pays sérieux, le directeur de renseignement devrait normalement démissionner. Moïse Katumbi, sa lutte est pacifique et la démocratie, c'est savoir dire oui ou non.
Quant à savoir si ces accusations portées contre lui ont anticipé sa candidature à la présidence de la République, Moïse Katumbi affirme:
il y a eu plusieurs demandes au niveau de la population, il y a eu plusieurs plateformes, il y a eu les G7 et je l'avais dit sur RFI, j'allais répondre aux G7 et à la population congolaise avant 3 semaines. C'est ce que je fais.
L'ex-gouverneur du Katanga s'inquiète tout de même que la justice congolaise n'est pas indépendante. Il demande une enquête internationale, notamment l'implication du gouvernement américain dans des ressorts sont cités dans l'enquête. De Lubumbashi, Noli Kabena, Radio Okapi.
Joachim Diana, Peter Tiani et Serge Banzaba, respectivement éditeurs du quotidien La Colombe, directeur général du Vrai Journal et journaliste à la RTNC Matadi, sont les invités dans ce studio pour la tribune de presse de ce vendredi 6 mai. Joachim, parlons d'abord du dossier judiciaire. Comment avez-vous accueilli la communication du ministre de la Justice?
Je pense que tout Congolais, même les chefs de l'État, est justiciable. Dès le moment où on a de présomptions, où on a des faits contre vous, on a le droit de vous traduire en justice. En fait, en ce qui concerne les étrangers qui ont été arrêtés à Lubumbashi, je pense, comme journaliste, je dirais que l'information n'est pas venue d'abord du gouvernement, c'est de médias qui ont constaté qu'il y a des étrangers.
C'est quel média qui en a parlé?
Mais les médias étrangers, j'ai lu dans Le Monde, j'ai lu dans Le Figaro, j'ai lu dans beaucoup de journaux, mm-hmm, qu'on a arrêté des étrangers. Ils ont parlé de 8, dont un Américain. Mm-hmm. Et pour l'Américain, son ambassade confirme que cet Américain-là travaille là-bas dans le domaine de la sécurité. Mais monsieur, lorsqu'on travaille dans une société, on doit avoir sa carte de travail ici, au ministère du Travail et de l'Emploi. Tout étranger a une carte des employés étrangers. Comment on peut être étranger parce que c'est le Congo? Est-ce qu'en Amérique, un étranger peut aller avoir du travail et rester tranquillement travailler? Et quand on l'arrête, on dit que non, ce qu'on lui met sur les dos, c'est faux. D'ailleurs, le fait d'entrer dans un pays, de commencer à travailler sans carte de travail...
Mais est-ce que ça ne remet pas en cause finalement le travail des services qui sont au poste frontalier?
Berry, nous faisons la part des choses. Mm-hmm. Ce n'est pas parce que il y a eu porosité de la frontière quelque part, que vous, Congolais, surtout, vous êtes la personne qui prétend demain diriger le Congo. Vous dites non parce que les services ici n'ont pas fait le travail, j'ai fait entrer les étrangers, je les fais travailler sans carte de travail. Mais même s'il n'y a que cet étranger-là, cet Américain-là, le fait de cet Américain qui travaille dans le domaine de la sécurité, son ambassade dit qu'il n'était pas armé. Mais qui a dit qu'il était armé, tout ça? On a dit qu'il était là. Tout ce que nous demandons, c'est que l'enquête démontre la relation entre ces étrangers-là, qui d'ailleurs sont déjà, celui qui les a fait venir est déjà fautif. En Europe, il serait déjà condamnable, on pouvait déjà l'arrêter.
D'accord. Ok. Peter, est-ce que vous êtes d'avis avec l'analyse que fait Joachim?
Je vois comment Joachim Diana a beaucoup gesticulé pour...
Tu parles clairement. Si tu dis des histoires comme ça, le débat ne sera pas normal. Je te préviens.
Joachim Diana,
présente des arguments que tu as.
Calmez-vous.
Sinon, le débat ne sera pas normal.
Calmez-vous. La démocratie veut que...
Non, la démocratie, ce n'est pas infuriant quelqu'un.
Je n'ai pas...
Moi, je ne gesticule pas. Moi, je donne des arguments.
D'accord. Par rapport aux arguments, pas éventuellement...
Il n'y a pas eu d'insulte de ma part. Alors, je disais tantôt que... Et puis, autre aspect, c'est que Joachim Diana dit qu'il y a parlé que le monsieur avait une arme, Joachim Diana. s'il s'était informé sur le dossier, devait savoir qu'on a parlé, que le garde avait un GP. On a même montré un GP dans les médias. Je ne sais pas si Joachim Dia l'a vu.
Okay.
Mais je suis quand même sidéré et surpris que le ministre dise une chose et que l'ambassade américaine réagisse en parlant de fausses allégations. Je suis quand même assez surpris que le ministre nous dise qu'il y a environ 600 mercenaires et que le service de sécurité sont là. Il n'y a pas de sanctions. C'est gravissime, Berry. Dans un pays, si nous avons un service de sécurité, nous avons les agents de l'ordre, comment peut-on expliquer l'intrusion de 600 mercenaires? Ça s'explique comment? Ça veut dire que le ministre nous a fait comprendre que le chef de l'État doit mettre à la porte tous ceux qui s'occupent des services de sécurité. Nous sommes tous en danger. C'est des questions qu'il faut se poser. Et autre aspect, qu'on se le dise, mais c'est l'histoire qui se répète. Le régime continue à danser le tango au rythme de l'opposition.
Pour vous, vous pensez que c'est une machination?
Non, c'est pas une machination, mais il faut savoir anticiper les choses. Souvenez-vous quand Vital Kamerhe a quitté la majorité. On assiste à des choses ici. Il devait se déplacer, pas moyen. J'étais dans l'Est avec lui, ou à Bukavu, on a été tiré dans tout le sens. Tout récemment, il y a eu une ville morte qui pouvait peut-être échouer. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui sait qui a été désigné comme candidat président, Martin Fayoulou, il est pris à la veille de la ville morte. Il amplifie même l'information. Et moi, j'ai toujours dit que la réussite de la ville morte, c'est parce que, bon, avec l'arrestation de Martin Fayoulou, voyez ce qui s'est passé après. Aujourd'hui, c'est le pouvoir en place qui est en train de donner de la pondération encore à Moïse Katumbi, qui, juste lorsqu'il est tous, c'est tout le gouvernement qui réagit. Est-ce que c'est normal? Est-ce que si nous sommes dans un État où vous avez le pouvoir, vous avez l'argent, vous avez l'armée, un seul individu peut vous faire danser le tango quand il veut, au moment et à l'endroit qu'il veut? Ça ne s'explique pas. Donc, moi j'estime, en résumé, que cette histoire, cet acharnement à la personne de Moïse Katumbi, c'est les mêmes pratiques que nous avons connues hier avec d'autres. Tshisekedi a même été mis en résidence. Vous vous souvenez, Kamerhe est passé par là, Fayoulou et consort. Il faudrait que ces pratiques cessent. Lorsque quelqu'un...
Donc vous pensez que Moïse Katumbi est sain sur ce dossier?
Je ne parle pas de celui qui est sain, celui qui a péché et tout, mais je parle des pratiques ici. Remarque aujourd'hui, l'actualité maintenant tourne autour de Moïse Katumbi aujourd'hui. Et directement, tous les projecteurs sur lui, et il devient potentiellement gagnant.
D'accord. Voilà. Alors, Serge, vous êtes à Matadi. Comment vous avez accueilli l'annonce du ministre de la Justice?
Je dirais que c'est vraiment légal, parce que c'est dans la procédure même. J'ai entendu pendant la semaine certaines gens sur votre antenne dire qu'il faut respecter la liberté, l'indépendance de la justice. Là encore, il faut voir la procédure. Le juge, le magistrat du siège, lui, il est vraiment libre. Mais par rapport au magistrat du parquet, d'une manière ou d'une autre, il est lié au ministre de la Justice. On parle d'une indépendance comme une fiction, en fait. Donc, ce que le ministre a fait, c'est dans la procédure même. Il peut ordonner, il peut demander au procureur général de poursuivre un tel ou un tel. D'ailleurs, pour revenir en avant, j'avais même suivi Moïse Katumbi sur la RFI ou sur Radio Capi, demandant même cette enquête-là, demandant même cette procédure-là. Qu'est-ce qui a été fait? Je me dis, il y en a qui pensent que c'est de l'acharnement de la part du gouvernement, mais également d'autres pensent par contre que Moïse Katumbi aussi voit des sorciers un peu partout. Donc, moi je pense qu'on laisse la procédure s'exécuter, parce que c'est prévu par la loi. Moi je pense que des fois aussi Moïse Katumbi crée les événements. Et de l'autre côté, on répond.
D'accord. Alors Joachim, est-ce que finalement, comme l'a dit Peter, ce n'est pas un acharnement sur Moïse tous ces derniers temps, l'actualité est focalisée sur Moïse?
Non, je pense que je vais continuer à rester sérieux pour vous dire ceci. Moïse Katumbi fait une marche. Au cours de cette marche, il dit, vous pouvez chercher les archives, on a tiré sur la foule à balles réelles et à bout portant. Bilan, aucun blessé, aucun mort. Ce sont des balles réelles et curieuses.
Donc les
c'est une bonne manière de tirer à bout portant qui est dans la foule. Qui est curieuse. Vous vous rendez compte que qui est en train de manipuler qui? Et le média occidental qui ne sont pas sur le terrain sont tombés là-dedans. Et il y a le bureau conjoint de la MONUSCO qui a relayé usage disproportionné de la force.
Mais quel est cet usage proportionnel de la force où il n'y a aucun blessé, aucun mort, et on a tiré à balle réelle et à bout portant? Vous voyez,
Tito. Donc vous pensez que Moïse crée les événements?
J'ai dit ceci. Moïse, quand, dès qu'il apprend qu'il a un dossier judiciaire contre lui, il active. Dès qu'il a pris ce dossier sur les mains, parce qu'on avait arrêté déjà le jour de la marche là. Dès qu'il a appris qu'il y a qu'à avoir une élection, il se déclare candidat. Dans sa compréhension, c'est curieux de la part d'un candidat président de la République, que le fait d'être candidat président de la République vous donne une certaine immunité. Ça, ce n'est qu'une déclaration, il n'est même pas encore candidat. Pour être candidat, il faut déposer les dossiers quelque part. Et le dossier là doit être étudié et il doit être avalisé avant d'être candidat président de la République. Mais en attendant, là, c'est n'importe qui peut dire je, avoir les ambitions. Quand vous avez les ambitions d'être président de la République, vous ne devenez pas immunisé. Lorsqu'on vous arrête pour cette fois, vous dites ah, on m'arrête parce que je me suis déclaré candidat président. Et se déclarer candidat président de la République en République démocratique du Congo, ce n'est pas interdit, c'est autorisé. Mais il y a une procédure, il y aura la CENI va faire ce qu'on appelle convoquer le corps électoral, et à cette époque, les gens vont déposer le candidat. Je ne sais pas ça, candidat, il a déposé auprès de qui, entre les maires, qui pour qu'on dise qu'il est candidat et on les maltraite. En 2006, il y en avait 33. En 2011, il y en avait 11. Est-ce qu'il sera le premier candidat? C'est lui qui est issu de la majorité, mais on en a eu quand même.
D'accord.
Il sera pas une grande première.
En même temps, l'opposition reste pratiquement unanime et certaines organisations de la société civile croient à une instrumentalisation de la justice. Qu'en pensez-vous, Peter?
Je ne vais quand même pas avoir de conclusion aussi dure, mais il y a des faits quand même où on se pose plusieurs questions par rapport à ces faits. J'ai évoqué ici le dossier Caméré, il y avait aussi une affaire en justice avec Wivine Moleka, ils avaient résolu cette affaire dans l'amiable, mais vous avez vu ce qui s'est passé après, où il fallait faire des pressions et il fallait des interventions extérieures pour essayer un peu de calmer les ardeurs de certains. Aujourd'hui, on va sortir les dossiers dans les tiroirs. Bon, première question qu'il faut se poser, pourquoi d'abord les gardes de Moïse Katumbi ont été arrêtés? Il devait y avoir un meeting. Pourquoi doit-on interdire aux gens de tenir des meetings? Si Moïse Katumbi ne fait pas peur, nous sommes arrivés à des arrestations. Pourquoi? Parce que il devait y avoir un meeting et on a interdit. C'est ça la réalité. Et puis on a arrêté des gens. Ça veut dire, du point déjà de vue de la Constitution, on a violé la Constitution parce que la liberté de tenir des meetings, c'est dans la Constitution et on informe l'autorité. On ne demande pas l'autorisation à l'autorité. On a péché. Deuxième aspect, Moïse Katumbi voulait venir ici à Kinshasa pour les obsèques de Papa Wemba. Il en a été empêché. Son jet est où aujourd'hui? Pourquoi? Vous savez, il y a des choses qui peuvent être assez simples, peut-être dérisoires. Mais l'acharnement que le gouvernement fait, le régime, passe-moi le terme, donne de la pondération à certains faits.
Donc pour vous, c'est un acharnement carrément Moïse Katumbi.
C'est la même pratique hier, heureusement ou malheureusement pour le régime. Cet acharnement à la personne de Katumbi a donné encore beaucoup du tonus et de crédibilité à Katumbi. Et l'homme, j'ai suivi sa dernière déclaration, d'ailleurs son intervention comme invité de la radio Capi ce matin, il tient mordicus, il dit il va foncer jusqu'au bout et c'est parti. Ça veut dire que lorsque vous êtes en train, c'est maintenant ici la politique de la victimisation, lorsque vous attaquez quelqu'un, vous acharnez la personne devient victime. Et très souvent, la population a toujours de la compassion pour la victime.
D'accord.
Et malheureusement, le gouvernement joue à ce jeu et ils sont tombés dans le piège de Katumbi. Aujourd'hui, Katumbi, nous en parlons aujourd'hui, on en parlera demain. Et c'est aussi une pression pour les élections, parce que quand il est candidat, comme l'a dit Diana, il est candidat, mais il faut qu'il y ait des candidatures, comme Moïse Katumbi est candidat, parce que pour lui, les élections, parce que l'objectif c'est ça, il faudrait qu'il y ait des candidats de part et d'autre, parce que les élections, c'est dans les délais. La Constitution dit 90 jours avant la fin du mandat, c'est les élections. Contraire emmènerait le pays
on
dans une situation
sur la difficile. On reviendra sur la candidature de Moïse à la présidence de la République. Mais Serge, vous sembliez dire que vous aviez des conseils à donner à Moïse. S'il peut vous écouter, quels sont les conseils que vous lui donneriez pour éviter qu'il crée l'événement comme vous l'avez souligné vous-même?
Moi, je pense que ce que Moïse peut faire, c'est d'implanter un peu partout son parti politique.
Il n'a pas de parti, malheureusement, jusqu'à ce jour.
Et c'est pourquoi on se dit, ça c'est un problème de l'Est ou comment? On ne comprend pas du tout. J'aimerais d'abord qu'il puisse s'appesantir sur les stratégies d'implantation ou de création d'un parti politique pour être beaucoup plus crédible. Parce que vivre avec des plateformes vivre avec des alliances, c'est bien, mais c'est pas mieux. Il faudrait qu'il puisse d'abord penser à la création d'un parti politique, comme il a déjà déclaré, hein, qu'il a quitté le PPRD, il doit faire autre, c'est-à-dire créer un parti politique.
D'accord.
Mais également, du côté du gouvernement, certains faits ne méritent pas des poursuites. Hein. À un certain moment, Moïse Katoum crée les événements, le gouvernement également doit être très prudent, certains problèmes... Il peut parfois s'en passer.
D'accord. Alors, parlons maintenant rapidement de sa candidature. Il a estimé qu'il a répondu à différentes coalitions des partis politiques et même de la société civile. Pensez-vous que sa candidature est opportune, Joachim?
Bon, je me demande même si c'est une candidature. Je me demande si c'est une candidature parce qu'en fait, les gens disent que nous devons être respectueux des textes. J'ai relu la Constitution ce matin qui dit que les gens se portent candidats lorsque la CENI convoque le corps électoral. Et que la CENI va indiquer l'endroit où on va déposer les candidatures. Il y a un organe qui les reçoit, qui les étudie. Et on verra si vous avez oublié un dossier, un élément dans votre dossier. On vous rappelle, ainsi de suite. Et après, quand c'est à valider...
Peut-être qu'il est en train de le confectionner déjà.
Fait, vous devenez candidat. Pour le moment, il a l'intention d'être candidat. Il n'est pas encore candidat. Et c'est autorisé. Vous savez que beaucoup de Congolais croient que, puisque Tshisekedi a arrêté à gauche à droite, cela a fait sa fortune politique, et qu'à l'époque, être opposant, c'était un mérite particulier. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'opposition est constitutionnelle. Être candidat président de la République, c'est autorisé, c'est votre droit le plus légitime. Plus personne ne peut être brimé parce qu'il est candidat président de la République. Être opposant, on ne peut pas hausser les épaules parce qu'on est... À l'époque, c'est où on pouvait hausser les épaules parce qu'on allait contre un ordre établi. Aujourd'hui, c'est légal. Et être dans l'opposition, ce n'est pas dire que je suis le meilleur. Non, bien au contraire. Vous êtes les mauvais. Et la population a donné sa majorité à votre adversaire. Et vous, vous devez vous battre maintenant. Mais si je suis l'opposition, croit que c'est elle qui est la meilleure, c'est elle qui a le peuple, mais ce peuple qui ne lui a pas donné le mandat. Et pour justifier, ah non, il y a eu fraude. Mes chers amis, si nous faisons de la politique comme du théâtre, c'est regrettable.
D'accord. Alors, Peter, est-ce que le dossier judiciaire de Moïse ne va pas entacher un tout petit peu sa candidature?
Je doute fort qu'il y ait un dossier judiciaire. L'ennemi ou le grand adversaire du régime ou du gouvernement place, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas Moïse Katoum. Ils sont en train de chercher l'adversaire ailleurs. L'ennemi du régime en place, c'est son bilan. Joachim Lian a dit, la majorité de Congolais a donné le pouvoir à la majorité de diriger exactement. Mais le bilan, il est lequel? Pas plus tard qu'il y a deux jours, aujourd'hui on nous dit qu'on ne peut pas organiser les élections dans le délai parce que l'argent a servi à la guerre dans l'Est.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi mettre la charrue devant le bœuf qu'a fait Moïse en se déclarant candidat alors qu'en amont, il n'y a pas...
Je veux y revenir.
Okay.
En amont, il n'y a pas quoi. Joachim vient de parler des élections, de la Constitution. Il doit y avoir les élections 90 jours avant la fin du mandat.
Et qu'on convoque le corps électoral.
Exactement. C'est ça la Constitution dans son article 73. Et l'adversaire du gouvernement, c'est le bilan. C'est le bilan par rapport à la gestion de la Respublica. Comment est-ce que la majorité a géré? Est-ce que nous avons de l'eau? Parce que nous sommes en train j'aimerais bien qu'on ait la capacité d'écoute. Hein. C'est même l'élégance dans un débat. Donc le bilan, est-ce que nous avons de l'eau? Est-ce que nous avons de l'électricité? Est-ce que si je fouine dans les sacs ou dans nos poches, je ne verrai pas des chargeurs, des gens qui se promènent avec pour chercher là où il y a un courant pour brancher?
Alors, très
est-ce que lorsqu'il y a un match de football, tout le monde fouille la maison pour chercher un bistrot, une terrasse, suivre le match parce qu'il n'y a pas d'électricité? Est-ce que le manger, il est là? Est-ce que le panier de la ménagère? Est-ce que la croissance économique est réelle? C'est des vraies questions. Et c'est ça l'adversaire du régime en place. C'est pas l'opposition. Et aujourd'hui, s'il y a élection, crois-moi, mon cher frère, il y a tous ces subterfuges. Pourquoi? Parce que le bilan est... Je te dis, je manque même le terme pour dire le régime en place a mis la population dans une situation catastrophique. J'étais mal à l'aise aujourd'hui à entendre qu'à Béni, ça fait deux jours, plus de 20 morts. Je me dis, mais tout l'argent des élections nous a dit qu'on a financé pour pacifier l'Est. Mais nous en sommes où? Dans
d'accord.
Un pays où les gens meurent tous les jours. C'est ça le bilan, c'est ça l'adversaire du
d'accord.
régime. Ce n'est pas l'opposition comme Moïse Katoumbi.
D'accord. Alors, Serge, on sait aussi que dans plusieurs partis politiques de l'opposition, on n'est pas d'accord avec Moïse sur cette annonce. Est-ce que finalement, l'opposition ne semble pas, dans son ensemble, ne serait pas fragilisée avec l'annonce de Moïse Katoumbi?
C'est ça en fait. Moi, je vais un peu voir les choses autrement parce que l'opposition doit être franche vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis du peuple. Parce que, d'aucuns savent que nous vivons au Congo actuellement la controverse constitutionnelle. C'est pour cela qu'il est souhaitable qu'on puisse d'abord vider cette problématique des controverses pour qu'on aille plus loin. À l'heure d'élection, pensez déjà aux élections avec cette controverse constitutionnelle, il y aura encore des problèmes bien après. Si on peut vider cette question avant d'aller aux élections, ça serait mieux. Voilà d'où les dialogues. Les dialogues, les plus courageux en parlent. Les moins courageux ne veulent pas en parler. Et pourtant, ça peut nous servir.
D'accord.
Les élections pour les élections, moi, je ne suis pas pour ça. Les dialogues, nous devons les soutenir parce qu'on peut vider beaucoup de questions, on peut résoudre beaucoup de problèmes.
Donc pour vous, la solution, c'est le dialogue. Ainsi, nous allons rentrer dans le deuxième thème de notre débat de ce soir. Il s'agit justement de l'économie. La cimenterie de la Lukala a décidé mardi d'arrêter la production du ciment gris au Congo central. C'est le directeur général de cette entreprise, Ola Ora, qui l'a annoncé suite, selon lui, à une concurrence déloyale dont elle fait face depuis décembre 2015. Son entreprise se voit complètement dépassée par cette concurrence qui a obligé l'usine de tourner en dessous de 50% de sa capacité, a-t-il indiqué. Cet arrêt de four, a fait remarquer Ola Ora, doit s'accompagner d'une période de congé technique pour 92 agents sur les 350 employés permanents jusqu'à ce que la situation du marché se normalise. La sous-traitance est elle aussi affectée par cette déconfiture, précise le directeur général de Silou, qui estime que la solution se trouve au niveau des autorités du pays. Alors Joachim, est-ce que vous comprenez la décision de la Silou?
Je suis quand même peiné qu'il y ait, à la suite de ces mesures, beaucoup de Congolais qui vont aller à la touche, qui n'auront pas d'emploi. C'est dur, par les temps qui courent, de ne pas avoir l'emploi. Mais je comprends que... je voudrais... Parce que j'aime bien qu'on définisse les termes. Par quoi, qu'est-ce que CENI, la Silou entend par
concurrence
déloyale? Lorsque les gens... Si les gens importent du ciment extérieur... Légalement, ils payent leurs taxes que le ciment là vient ici. Le ciment qui est fabriqué en Hollande, on le fabrique en Hollande, il arrive ici à Matadi. À partir de Matadi, il coûte $5. Et qu'il arrive ici à Kinshasa ou partout, on le vend à $10. Et que le ciment Silou qui est fabriqué sur place, qui n'entre pas au pays par des douanements et ma chère, et il coûte plus cher que ça. Mais c'est ça aussi la liberté. On ne doit pas demander les libertés que politiques de créer des partis politiques. On a aussi la liberté d'entreprendre.
Donc pour vous, la décision n'est pas justifiée.
Je pense que Silou devrait plutôt chercher à s'adapter au marché. C'est-à-dire, le problème de Silou, on comprend, c'est que Silou a des vieilles machines qui demandent que dans la production, il y a un coût très élevé, ce qui fait que son ciment doit coûter un peu plus cher. Mais nous, il y a une nouvelle technologie pour fabriquer plus facilement les ciments. C'est pourquoi moi, j'ai l'offre de Hollande. On vous amène des conteneurs de ciment à partir de ma taille. Ça coûte $5. Moi, je pense que si on veut construire, on doit plutôt suivre ça. Ce n'est pas une concurrence déloyale.
Alors Serge, vous qui êtes au Congo central, quand le directeur général parle de la Silou, c'est même la préoccupation de Joachim, à qui fait-elle allusion finalement? Est-ce que ce sont ces entreprises hollandaises ou bien il y a encore d'autres importateurs qui viennent avec le ciment au niveau de Matadi?
Il fait allusion précisément à ces grands marchés frontaliers des Loufo, hein, parce que c'est de là que provient la plupart de ces ciments. Mais il faut dire qu'au niveau de la province, hier... la délégation syndicale de cette entreprise, donc Silou, a été reçue par le gouverneur des provinces depuis Boma. Et puis, ils sont venus, pour ces gens-là, juste pour en parler, attirer l'attention de l'autorité provinciale. Aujourd'hui, là, déjà, il y aura une rencontre entre la délégation syndicale, les responsables de Silou et le gouverneur des provinces à partir de Boma. Elles sont prévues, évidemment, parce que il ne s'agit pas, en fait, comme vous l'avez dit là-bas, d'un congé technique. Il s'agit, en fait, d'un chômage temporaire de 3 mois. Donc, 92 agents sont concernés avec 144 sous-traitants.
Jusqu'à ce que la situation va se normaliser.
Oui, jusqu'à ce que la situation se normalise. J'ai également posé la question auprès du président de la direction syndicale par rapport à cette situation. Il m'a dit que Silou n'est pas en faillite. Il ne s'agit pas de la faillite, mais c'est la surproduction. La Silou produit, mais les gens n'achètent pas. À ce jour, il y a 65 000 tonnes de clinker non exploitées au niveau des silos. Donc, parce qu'ils ne vendent pas, et ils ont mis en chômage donc ces agents qui travaillent au niveau de la carrière, au niveau du four, et puis des mécaniciens ne sont plus là, ainsi que des électriciens. Mais je vais poser la question à propos des loufous. Il me dit que Louvre, est-ce que Sylou n'est-il pas, ne peut-elle pas aujourd'hui là rejoindre les prix? Ici à Matadi, les sacs coûtent 7 300, 7 550. Il me dit qu'à cette question, les responsables de la Sylou ont dit que c'est impossible, donc ils ne pourront pas vendre à ces prix-là, sinon ils vont tomber en faillite. Donc c'est au moins un dilemme pour nous, parce que nous avons des frères qui sont là.
D'accord.
Qui travaillent à Sylou.
Merci.
Donc, c'est un dilemme pour nous qui sommes le problème du Congo central.
D'accord. Alors, Peter, vous avez entendu un peu les arguments de Serge au Congo central et même ceux de Joachim. Est-ce que vous comprenez, est-ce que finalement ce n'est pas une façon pour la Sylou de faire pression un peu sur le gouvernement par rapport à cette question du marché du ciment?
Dans tous les états du monde, partout dans le monde, on privilégie les sociétés du pays d'abord, où il y a les enfants du pays, sauf en RDC.
Mais la Sylou, le ciment de la Sylou coûte quand même cher, comme l'a soulevé Joachim.
Sauf en RDC. Ce que Joachim Viana n'a pas dit, c'est qu'il y a des exonérations des entreprises. Le ministère de l'économie a exonéré des sociétés étrangères dans le même domaine. On aimerait aussi ici que, justement, c'est ça le rôle du gouvernement, de faire des exonérations en matière de la pression fiscale par rapport à la Sylou. Parce que il y a des taxes que Sylou paye. Si on peut faire des exonérations à grande échelle pour Sylou, parce que c'est un fils du pays, parce qu'il y a des fils du pays qui risquent d'aller en chômage, ça, ce serait une bonne chose, parce qu'on est exonéré.
Donc le ciment du Sylou devrait coûter même 3 dollars.
Même 3 dollars, si seulement ici le gouvernement s'implique. Le gouvernement doit s'impliquer. Le gouvernement doit même financer. Ou si pas financer, faire des exonérations à grande échelle dans cette société. Ou, quand il y a plusieurs taxes à payer, on restreint ces taxes. Comme ça, Sylou peut respirer et on compense ça par le prix. Parce que quand vous faites des exonérations à des étrangers, ils viennent ici, ils importent à moins cher, tellement qu'il y a des exonérations, ils cassent le prix. Quand ils cassent le prix, vous, même, il n'y a pas que Sylou. Il y a donc beaucoup de domaines ici, parce que les Chinois nous vendent même la tomate. Hein.
D'accord, très rapidement, parce qu'on arrive déjà à la fin de notre émission. En conclusion, vous, quelle est votre solution par rapport à cette question?
Par rapport à cette question, il faudrait que le gouvernement s'implique en faisant des exonérations à grande échelle à Sylou, pouvant permettre à sauver cette société, parce qu'on a fait des exonérations aux étrangers, on sait que quand on fait des exonérations aux étrangers, qu'est-ce qu'il y a derrière? Mm-hmm. Mais le plus important, c'est faire en sorte que ces Congolais qui sont à Sylou, ma tante Apone qui nous a parlé du taux de chômage, taux d'emploi à 50%, que ce 90 Congolais ne perdent pas, parce que 90 Congolais plus le nombre de familles, vous voyez ce que ça représente pour le pays.
Merci et beaucoup. C'est donc dommage. Pour vous, il faut que le gouvernement exonère
à grande échelle.
Serge, quelle est votre conclusion? Très rapidement, qu'est-ce que le gouvernement faire?
Moi, j'invite le gouvernement à faire la biopolitique. Hein, donc, une politique qui donne la vie à l'instar de celle qu'elle a adoptée, parce qu'ici à Matadi, les gens acclament les ciments des Loutous. Entre-temps aussi, le gouvernement fait penser, voir comment sauver Sylou en subventionnant et puis en prenant certaines mesures d'encadrement pour qu'on sache. Parce que le responsable de Sylou, M. Declercq, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, il est lui le responsable de la BIAC.
D'accord.
Ce BIAC, il y a des problèmes.
Merci.
Le même monsieur, il gère également Sylou. Sylou aussi a des problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces grands actionnaires?
Exact.
Merci beaucoup, c'est ça votre conclusion. Et Joachim, quelle est votre conclusion?
Ma conclusion est que en réalité, le ciment Sylou coûte cher. Ce n'est pas parce qu'il y a des taxes, même si on exonérait, le coût de production est très cher, parce que son matériel demande beaucoup d'histoires qu'il faut importer pour qu'il entre dans la production du ciment. Donc il coûte cher. Et pour qu'il modernise son équipement, il faut peut-être arrêter pendant un temps. Lorsque Sylou avait arrêté, on pensait que c'était pour amener de nouveaux matériels, mais malheureusement ça continue. On ne va pas continuer comme ça, il faut moderniser.
Merci beaucoup. Remarques et suggestions, écrivez-nous à denk@radiocapi.net. et c'est la fin de la tribune de presse de ce vendredi 6 mai 2016. Merci à Kéline Kouté qui a coordonné cette édition, supervisée par Martin Sebou-Jangwe, et Dieudonné Nyanga a été à la prise de son Béré Fonclin Lucha Kabouli. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi dans Dialogue entre Congolais.